Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans un nouveau numéro de talk show, le magazine des médias et de la télévision. Aujourd'hui, on va parler d'une chose qui n'est pas très connue, c'est un nouveau pogrom qui a eu lieu à Yatchi. Et pour en parler, le réalisateur de ce documentaire, Nelou Khan. Bonjour Nelou Khan.
Bonjour.
Vous êtes le réalisateur de ce documentaire avec un autre réalisateur qui s'appelle William Carell. Donc, on rappelle, ça s'appelle La mort en face. Le programme de Yatchi, ce sera diffusé donc demain soir aux alentours de 23h sur France 3. Tout d'abord, Yatchi, c'est quoi, c'est qui ?
Yatchi, c'est une ville en Roumanie, plus précisément en Moldavie. Dans ce qu'on appelle la Moldavie historique, c'est la capitale de la Moldavie. C'est une ville qui, en 1940-41, avait à peu près 5000 habitants. Et c'est une ville qui, en Roumanie, a une grande importance parce que c'est la ville où il y a eu la première université, les journaux culturels très importants. Mmh. Et pour nous, juifs, ça a une importance aussi parce que c'est dans cette ville qu'a été construit le premier théâtre yiddish, en dur, comme on dit. Ça veut dire qu'il y avait un bâtiment où on jouait des pièces en yiddish en 1867. C'est le premier théâtre yiddish de l'histoire. Donc voilà, c'est une ville qui est importante. En 1941, au moment du pogrom, 50% de la population de la ville, donc autour de 50 000 personnes, donc 50%, étaient des juifs.
Donc il y avait une vraie vie juive à Yatchi.
Il y avait une vraie vie juive, il y avait des écoles, il y avait des yeshivot, il y avait des journaux. Hein. C'est vraiment une ville, une vie juive est très riche.
Alors, Nelou Khan, quand moi j'ai vu sur l'ordinateur le mot de pogrom de Yatchi, j'ai pensé qu'on avait parlé d'un pogrom qui avait lieu bien avant. Finalement, c'est un pogrom qui a eu lieu, mais dont on parle très peu ou pas du tout. Pourquoi ?
C'est un pogrom qui a eu lieu donc, en 1941. C'était une semaine après l'invasion de l'Union soviétique par les armées de l'Axe, donc l'Allemagne, l'Allemagne nazie. La guerre a commencé contre l'Union soviétique le 22 juin.
Oui.
Le pogrom a eu lieu le 29 juin.
Donc c'est une semaine après.
C'est une ville qui est frontalière. Et en fait, le pogrom a eu lieu, a été perpétré par les autorités roumaines, l'armée, la gendarmerie, la police et la population.
Mais comment ça se fait que ce pogrom-là, il n'est pas connu, en tout cas, on en parle très très peu. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas eu accès à cette information ?
Parce qu'il y a eu une chape de plomb pendant les années communistes. On n'en parlait absolument pas. C'était présenté comme un massacre perpétré par des nazis.
Ah.
Sans dire si c'était des Roumains ou des Allemands, parce qu'il y avait des troupes allemandes en ville.
Alors,
les Allemands ont été témoins de tout ça. Ils n'ont pas... Eux-mêmes, ils n'ont pas tué. Excusez-moi, entre guillemets, peu. Mais c'est l'armée roumaine qui a fait l'essentiel des crimes.
Alors, il faut quand même rappeler un peu l'histoire en Roumanie à cette époque-là. Donc, la Roumanie qui est écrasée, évidemment, par l'Allemagne nazie. Enfin, évidemment, comme ça, c'est l'histoire. Et,
La Roumanie, c'est ça qui est grave. La Roumanie n'était pas un pays occupé par l'Allemagne nazie.
D'accord.
La Roumanie, c'était un pays allié de l'Allemagne nazie.
D'accord.
Et c'est un allié très important puisque l'armée roumaine, c'était la deuxième armée qui a envahi l'Union soviétique. La Roumanie a mis à la disposition de l'Axe, donc de l'alliance avec l'Allemagne, 475 000 soldats, vous imaginez. Donc la Roumanie n'était pas un pays occupé par l'Allemagne à ce moment-là, c'était
alors,
un pays allié.
Du coup, il y a une personne qui prend la tête de la République ou de l'État qui est forcément très antisémite et qui donne l'ordre de tuer tous les Juifs de Yatchi. C'est comme ça que ça se passe ? Ou il y avait déjà eu avant une prémisse de pogrom qui pourrait avoir lieu ?
Oui, il y a eu des prémices. Ça s'est pas fait comme ça.
Hein.
Soudain, tout allait bien et d'un coup, on avait décidé de tuer des Juifs.
Ouais.
Il y a eu plusieurs gouvernements antisémites. En septembre 40, effectivement, le général Antonescu prend le pouvoir en Roumanie.
Ouais.
C'était un semi-coup d'État. Il a pris le pouvoir. Il a tué personne pour prendre le pouvoir. C'est juste le roi qui a abdiqué. C'est histoire un peu plus compliquée. Mmh. Il a pris le pouvoir, en tout cas, et tout de suite, il a renforcé l'alliance avec l'Allemagne. Déjà, donc, ce pogrom a lieu fin juin, début juillet. Il y a eu déjà un premier pogrom à Bucarest le 21 et 22 janvier, mmh. où on a tué 125 juifs, 130 juifs.
Et les juifs de Yatzi vivaient dans la sécurité à Yatzi ou pas plus que ça?
Justement, on sentait monter d'abord. D'abord, il y avait de plus en plus de lois antisémites mmh. Qui étaient promulguées. Les juifs n'avaient pas le droit, les avocats n'avaient plus le droit d'exercer, les comédiens n'avaient plus le droit d'exercer, les journalistes, les enfants n'avaient plus le droit d'aller dans les écoles publiques, les professeurs juifs n'avaient plus le droit d'enseigner dans les écoles publiques, à l'université. Donc, là, nous sommes déjà à un moment où les Juifs sont persécutés, sont fortement persécutés.
Mmh. La mort en face, le pogrom de Yatzi, c'est donc demain à partir de 23h sur France 3. Alors, on va un peu raconter ce qui s'est passé, mais je ne voudrais pas trop raconter parce qu'il faut que les gens aillent voir le documentaire que vous avez réalisé avec William Carrel. Mais je voudrais avoir un peu l'envers du décor de ce documentaire. Comment est arrivée l'idée de faire un documentaire sur Yatzi ? Qui est allé voir l'autre ?
C'est moi qui ai commencé à travailler dessus il y a déjà 3 ans pour une question très simple. C'est que je suis né à Yach et ma mère est survivante de ce pogrom. Mmh. Donc, c'est une histoire que j'avais à moi, que je connaissais depuis longtemps. Je ne pensais pas un jour me lancer dans la... dans la un production. Documentaire pour raconter ce pogrom. Et en fait, cette histoire est venue à moi. Il y a quelqu'un qui est venu au moment où je projetais un documentaire précédent à la Cinémathèque à Tel Aviv, qui est venu, qui m'a dit, moi je connais des survivants de ce pogrom, si tu veux faire un film dessus, c'est le moment. Et sans trop réfléchir, comme ces personnes sont très âgées, elles ont autour de 95 ans, je les ai tout de suite filmées, ne sachant pas exactement comment ça allait s'articuler tout ça. Donc, j'ai commencé à les filmer, ensuite je suis parti en Roumanie, j'en ai trouvé d'autres, et ils ne sont pas nombreux, ils sont 6 ou 7.
Qu'on voit dans le film d'ailleurs.
Encore en vie. Et d'ailleurs, depuis que le film a été tourné, il y a un des survivants qui est décédé. Hein. Et ensuite, je l'ai proposé à des...
Comment ça s'est passé? Vous êtes allé voir des survivants, vous leur dites « je suis de Yatzi aussi, je veux réaliser un documentaire ». Comment ils ont réagi?
Exactement, je les appelle, je dis « voilà, je suis réalisateur, je voudrais vous filmer ».
Et ils ont dit «
oui, pour un documentaire.
Oui, tout de suite ».
Ils m'ont dit oui tout de suite. Oui, il y a personne qui a refusé. Et puis j'ai entamé avec eux aussi une relation personnelle qui est aujourd'hui forte. On reste en contact depuis le tournage. Je reste en contact avec tous.
Alors Nelouken, quand on regarde le reportage, il y a sur les 5 ou 6 personnes, la moitié parle roumain. Il y en a une qui parle en hébreu puisqu'elle est israélienne. Ça veut dire que les Roumains qui sont survivants de Yatzi, continuent à vivre en Roumanie?
Oui, bien sûr. Il y a sur les sur ceux que j'ai trouvés, en fait, en Israël, j'en ai trouvé 3. Mm-hmm. Il y a un qui parle en roumain quand même dans le film, parce D'accord. que c'était plus facile pour lui. C'était assez... c'est intéressant parce que la première fois, je l'ai filmé en hébreu. Et ensuite, je voulais refaire, parce que je me suis rendu compte qu'il cherchait certains mots, qu'il réfléchissait en roumain. Donc, je lui ai demandé si je peux venir une deuxième fois, mais pour le filmer en roumain. Il m'a dit, bien sûr. Donc, on a fait une deuxième interview. Ouais. Et là, il a parlé en roumain, et c'est vrai que les choses sortaient de façon plus fluide. Par contre, Chava Dror, qui parle en hébreu, c'est exactement l'inverse. Au départ, je lui ai demandé de parler en roumain. Je pensais que ça va être plus facile pour elle. Et ensuite, à la fin, elle m'a dit si on peut refaire tout ça en hébreu, je préfère. Alors, on a refait l'interview en hébreu.
Alors, ce qui est aussi d'important, et il faut le dire avant que les gens aient ce reportage demain, il y a des photos, en tout cas des images, qui sont insoutenables, on peut le dire, où on voit vraiment des choses terrible, enfin très très...
Encore, on n'a pas mis les photos les plus terribles.
Ah. Et alors, où vous avez trouvé toutes ces images? Parce que...
C'était, comme je vous ai dit au début de notre entretien, c'est le premier massacre de la Deuxième Guerre mondiale. Autrement dit, les Allemands, les soldats roumains, ont beaucoup photographié. Et c'est suite à ce shooting géant, où tout le monde photographiait, l'armée allemande, comme l'armée roumaine d'ailleurs, ont interdit en photographie. Ce qui fait que c'est le massacre de la Deuxième Guerre mondiale le plus photographié. Aujourd'hui, on connaît à peu près 125 photos de ce massacre.
Ah.
Ce qui n'existe pas parce que si on fait une documentation sur les camps de concentration, sur Auschwitz, sur Sobibor, etc., il y a extrêmement peu de photos. Justement parce que c'était interdit.
Le programme de Yatsi, ça s'est donc déroulé en Roumanie. On le disait au début de l'entretien, finalement, c'est tout fait par les Roumains. Il n'y a pas eu d'intervention extérieure.
Non. Les Allemands étaient quasiment des témoins.
Mais quand on dit les Roumains, c'est aussi la population roumaine. C'est ça qui est bizarre.
La population roumaine, l'armée d'abord, l'armée, la police, la gendarmerie, les autorités roumaines, la mairie, et la population qui s'est donnée à cœur joie.
Ça veut dire que la population était là aussi déjà antisémite au départ? Ou s'ils sont devenus en suivant le mouvement.
Ceux qui ont commis tous ces actes, évidemment, il y a eu aussi des actes qu'on appellerait en France de résistance, c'est-à-dire des non-juifs qui ont sauvé des juifs. Ça a été extrêmement minoritaire, c'est d'autant plus louable, il faut le dire. Mais très peu ont sauvé des juifs.
Alors, Nelou Kohn, vous êtes, on rappelle, le réalisateur de ce documentaire demain sur France 3 aux alentours de 23h. C'est un peu tard, mais vous pouvez le retrouver après sur le replay de France 3. Vous avez mis combien de temps à réaliser ce documentaire? En gros.
À peu près un an et demi.
D'accord. Ça a été difficile de le faire diffuser à la télévision?
Je me rends pas compte. Ça a été difficile et facile. Difficile jusqu'à ce que j'ai trouvé la maison de production qui est Ciné TV et Lucie Pastor qui a produit le film. Parce qu'ensuite, comme c'est des très grands professionnels, et puis ensuite le nom et le savoir-faire et le talent de William Carell ont fait que ensuite ça s'est très bien passé.
Justement, l'implication de William Carell dans le reportage, c'était de quoi?
D'abord son savoir. C'est quelqu'un qui a fait plusieurs films sur la Shoah, des films magnifiques, donc qui connaît très très bien cette période. C'est quelqu'un qui a cette sensibilité-là, et il sait jusqu'où on peut aller dans ce qu'on va montrer et ce qu'il ne faut pas montrer. Quelqu'un qui sait, qui a un sens de la synthèse, ça veut dire, je sais que moi j'aurais mis peut-être plus de choses et j'aurais eu tort de le faire. Et lui, il sait très bien sélectionner les choses, dire à un moment donné, ça on ne le dira pas.
D'accord.
Il faut dire que ça, etc. Donc il a un savoir-faire, il a une expérience, c'est un artiste vraiment exceptionnel. William Carell, pour moi, c'est une fierté de travailler avec lui et je comprends pourquoi il a la belle renommée qu'il a.
Alors, le reportage sera diffusé à 23h20 sur France 3 et vous pouvez le retrouver dès le lendemain sur le site de France3.tv si pour vous ça fait trop tard. Il y a une chose que je voulais dire, c'est que quand le programme s'est fini, bien après, l'État roumain a toujours refusé de reconnaître sa responsabilité dans ce programme. Elle l'a fait il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce qui a changé en Roumanie pour que l'État roumain, finalement, accepte de reconnaître sa responsabilité?
D'abord le fait que l'écroulement du communisme en 89, donc déjà ça a été une première étape. Et ensuite il y a eu un rapport qu'on appelle le rapport Wiesel, une série d'historiens ont écrit sur l'histoire de la Shoah en Roumanie. c'était sous la présidence d'Elie Wiesel. Ce rapport a été publié en 2004 et tout de suite après, ça a été commandé par le gouvernement roumain de l'époque. Et tout de suite après, le gouvernement de l'époque a reconnu la responsabilité de la Roumanie, pas seulement dans le massacre de Liège, mais dans l'assassinat de 300 000 juifs.
Combien de juifs ont été tués pendant le pogrom de Yatch? En tout.
En tout, on parle de 14 850.
Alors,
selon les listes de la communauté juive, d'accord. Ça veut dire c'est les hommes qui ont manqué à leur famille.
D'accord. Alors vous verrez dans le reportage qu'il y a eu, on va dire, deux formes de pogrom, mais on vous laisse voir le documentaire parce que c'est vraiment intéressant et on racontera les histoires de savoir exactement comment ça s'est passé. Une question encore, Neloukhan, sur ce documentaire. Vous l'avez fait, on l'a dit, vous êtes allé en Roumanie, vous êtes allé en Israël. Qu'est-ce qu'il en ressort après? Évidemment, vous, c'est une histoire personnelle, mais est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises? Il y a des choses qui vous ont surpris, malgré votre connaissance dès le départ?
Mais dès le départ, je pensais connaître, et en fait, en étudiant, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas tant de choses que ça. J'avais une connaissance, en fait, superficielle. Mmh. Et j'ai appris ce que c'était vraiment, quelles étaient les relations. J'ai appris la richesse de cette communauté que moi-même, venant de là-bas, je ne connaissais pas et je ne soupçonnais pas. Mmh. J'ai appris beaucoup de choses. Ça pourrait faire l'objet d'une émission entière, parce que vraiment, pour moi, ça a été très enrichissant, et personnellement et humainement, oui.
Mais il y a des choses que vous avez apprises, malgré l'histoire que vous connaissiez?
Dans le déroulement du pogrom, il y a des choses que j'ai découvertes qui sont très, très peu connues. Il y a des choses qu'on n'a pas eu le temps de mettre dans le documentaire parce qu'il ne fait que 52 minutes. Mais par exemple, au moment où il y a un massacre qui se passe, ça se passe en plusieurs temps, mais il y a un massacre, un temps fort où plusieurs milliers de juifs sont tués dans la cour de la préfecture.
Ouais.
Et à ce moment-là, on estime qu'à ce moment-là, il y avait à peu près 8000 juifs qui étaient entassés là. Ouais. Donc il y a plusieurs centaines qui sont passés au-dessus d'un mur haut de 2 mètres. Ceux qui ont réussi, parce qu'on tirait sur eux, donc. Mais ceux qui ont réussi sont passés de l'autre côté, sont rentrés dans un cinéma, par derrière, par la porte de derrière, et quand ils ont voulu sortir, la porte de devant était fermée.
Ah.
Et les soldats sont venus derrière, et dans le cinéma, il y a eu un massacre.
D'accord. Il y a quand même une question que je voulais vous poser également. Ce qui est très intéressant dans le documentaire, c'est que les souvenirs des survivants est très présent. Ils racontent même des petits détails, des petites choses que, quand on est dans un état où ils étaient, c'était pas évident. Pour eux, c'est vraiment marqué, on va dire, vraiment très fort dans leur mémoire. Ils ont une mémoire terrible, je veux dire.
Comment ça pourrait être autrement? Vous imaginez, ils ont été entassés dans deux trains. Dans ces trains, il y a eu par exemple, Chavadror raconte, c'était toute sa famille.
Ouais.
Elle a survécu avec son père, sa mère et son frère. Mais 20 membres de sa famille, des belles-sœurs, des tantes, des cousines, des jeunes, des enfants, des vieux, 20 membres de sa famille sont morts à côté d'eux, dans le même wagon. Mmh. Comment on peut oublier ça? Simcha, celui qui vit en Israël, qui est effectivement roumain aussi, son père est mort à côté de lui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'est endormi, et quand il s'est réveillé, son père était mort. Qui peut oublier ça?
D'accord, on raconte ça dans le documentaire. Intéressant à voir. La mort en face, le programme de Yatchi, ce sera donc le 16 janvier à 23h20. Signalons, Neloukhan, que ce documentaire est inédit, donc c'est vraiment un nouveau documentaire.
C'est la première diffusion et c'est la première fois qu'on parle à la télévision française de ce programme.
Alors, on a encore quelques instants avec vous, Neloukhan, parce que, outre le fait que vous réalisez des documentaires, vous êtes aussi le directeur du programme de Radio J, la Radio J pharisienne. Il y a des nouveautés cette année dans la grille de Radio J?
Ah oui. Ça, depuis septembre, il y a l'arrivée d'un grand journaliste chez nous qui est directeur de deux rédactions, qui est directeur de la rédaction de Radio J et directeur de la rédaction de Judaïque FM. Et qui est Alexis Lacroix.
Oui, évidemment.
Ancien de l'Express, directeur de la rédaction de l'Express. Et donc on a des belles signatures qui nous ont rejoints, Alain Finkielkraut, Alexandre Adler, Bernard-Henri Lévy, Eliette Abekati, des signatures israéliennes, Emmanuel Navon,
Denis Charbit. Il y a une question que je voulais vous... Oui, il y a une question que je voulais poser, que beaucoup de gens posent. Où est passé Michel Zerbib? Une des signatures de Radio J aussi.
Oui, bien sûr. Il est en arrêt maladie.
D'accord.
Je me souhaite que bientôt il va revenir nous rejoindre.
D'accord. Radio J en ce moment, c'est une radio donc qui est diffusée sur Paris. Le site internet est en construction ou en reconstruction?
Le site est en construction, à mon avis, il sera prêt. J'espère dans les jours qui viennent. Le site est déjà prêt. On travaille dessus. Vous savez comment ça se passe.
Ouais.
Il est déjà fait. On travaille comme s'il était en ligne pour nous roder, pour voir s'il y a des bugs, si tout fonctionne bien. Et donc c'est juste une question de jour. À un moment donné, on veut que le jour où on le met en ligne, le site soit déjà bien nourri.
Qu'on
trouve des choses.
Je crois que vous animez une émission de cinéma, me semble-t-il, non?
Exact, oui.
Voilà, tout à fait. Voilà. Il y a un programme comme ça que vous aimeriez, par exemple, promotionner comme ça à Radio Judaïka pour que les gens vous suivent sur Radio J? Il y a une émission
Il y a beaucoup d'émissions, mais voilà, je ne veux pas parler de moi, je veux parler d'une émission, par exemple, qu'Alexandre Lacroix a mis en place, qui a lieu tous les dimanches à 15h. Ça s'appelle On refait la semaine.
Ouais.
C'est une émission qui est pour moi vraiment une émission phare, une émission vitrine de ce que Radio J sait faire, ce que Radio J propose.
Ah, il y a un gala tous les ans, il va avoir lieu encore cette année, le gala de Radio J?
Pour l'instant, rien n'est prévu parce que vous savez, on a déménagé, on met en place le site, on est en train de finir la grille des programmes, donc
j'espère
qu'il y aura un gala, mais rien n'est prévu pour l'instant.
Des projets Ninoukon au niveau d'un nouveau documentaire ou...
ce documentaire, c'est le premier d'une trilogie. En fait, le deuxième, il est à 75% et déjà tourné.
Oui.
Et c'est toujours sur un autre épisode de la Shoah en Roumanie.
D'accord. Et sur Radio J, vous continuez votre émission cinéma?
Je continue. En fait, j'ai une émission cinéma. J'ai en fait une heure de programme.
Ouais.
Il y a à la fois l'émission cinéma, mais il y a aussi, je reçois aussi des artistes. Mmh. Je fais aussi des séries. Mmh. En ce moment, on met en place une série sur la vie de Marek Alter.
Alors, une question encore, parce que je sais que vous avez différents cordes à votre arc. Je sais que vous êtes un amoureux de Tel Aviv. Vous avez fait une exposition il n'y a pas très longtemps de photos de Tel Aviv. La photo, c'est... C'est comme le documentaire, c'est les prises de vue qui sont importantes?
La photo, pour moi, c'est, oui, bien sûr. Ouais. C'est très important, mais c'est vrai qu'en ce moment, je fais moins de photos parce que tout simplement, on peut pas être partout.
Ouais.
Et les tournages, je m'occupe de la radio et régulièrement, je pars. Là, je dois partir en Ukraine pour un autre tournage. Donc, c'est comme des vagues.
Ouais.
j'attends la prochaine où je vais revenir à la photo, bien sûr.
Voilà.
J'adore faire ça.
Ninoukon, on rappelle le réalisateur du documentaire avec William Carell, La mort en face, le programme de Yachi. Ce sera demain, jeudi 16 janvier, à 23h20 sur France 3, documentaire inédit. Merci beaucoup, Ninoukon.
À
très très bientôt.
Merci
au revoir.
Au revoir.